Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, la Hongrie sous pression. Un sommet européen a lieu actuellement. Et la loi récemment adoptée par le Parlement en Hongrie a été évoquée. Cette loi est jugée discriminatoire à l'égard de la communauté LGBT. 17 pays de l'UE exige dans une lettre que les valeurs européennes soient respectées.
La mort d'un militant palestinien quelques heures après son arrestation à Hébron, il aurait succombé à des coups portés par des membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en fin de journée à Ramallah, notre reportage à suivre.
Dans cette édition également, l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui demande à soutenir les pays les plus vulnérables avec la pandémie de Covid-19 et notamment les pays africains.
Et puis en football, c'est l'heure d'un premier bilan après la fin du premier tour de l'Euro. Les huitièmes de finale vont débuter dimanche.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
La Hongrie s'invite à l'ordre du jour du sommet européen.
Oui, ce sommet s'est ouvert aujourd'hui. Et il devait être principalement question d'immigration, de variants du Covid-19 ou encore de politique extérieure. Mais depuis quelques jours, la colère monte à propos d'une loi adoptée par le Parlement de Hongrie et jugée, cette loi, discriminatoire à l'égard de la communauté LGBT. Cette loi, par exemple, fait un parallèle entre homosexualité et pornographie. Voici donc l'homme fort de la Hongrie, le Premier ministre Viktor Orbán, qui se trouve sous la pression de l'action des membres de l'Union européenne. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Ils sont 17 pays à avoir signé une lettre destinée au président du Conseil européen pour demander que soient respectées les valeurs européennes, la diversité et la lutte contre la discrimination. Les tensions sont particulièrement vives avec les Pays-Bas, dont le Premier ministre Mark Rutte a été jusqu'à estimer que la Hongrie n'avait pas sa place dans l'Union européenne. Il s'exprimait sous le drapeau arc-en-ciel qui remplace ce jeudi le drapeau tricolore néerlandais sur l'ambassade des Pays-Bas à Bruxelles. D'ailleurs, sans le football, le sommet européen n'aurait peut-être pas abordé le sujet, mais le Rainbow Gate est passé par là. Depuis que l'UEFA a interdit le drapeau arc-en-ciel sur le stade de Munich, les gouvernements de l'Ouest et du Nord de l'Europe se sont emparés du sujet et l'ont imposé comme premier point des discussions ce jeudi soir. Mais les tensions avec la Hongrie ont peu de chances de faire bouger le Premier ministre Magyar, puisque Viktor Orbán a déclaré peu avant le débat que la loi avait, quoi qu'il arrive, été adoptée, qu'elle concernait l'éducation sexuelle par les parents et qu'il n'y avait en fait pas de problème. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et suite aux déclarations du Premier ministre des Pays-Bas que Pierre Benazé évoquait, Budapest a réagi. La Hongrie ne veut pas quitter l'Union européenne, a ainsi tweeté la ministre hongroise de la Justice, Judith Varga. Le sommet européen se poursuit ce soir, où il est question des relations de l'UE avec la Russie.
Et c'est depuis Bruxelles que le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel.
Oui, Antonio Guterres était devant le Parlement européen ce matin. Et il a fait part de son inquiétude à propos des inégalités creusées par la pandémie de Covid-19 et des conséquences notamment en Afrique. Je vous propose d'écouter Antonio Guterres.
Nous voyons des inégalités choquantes entre les pays développés et les pays en développement. Alors que les économies avancées investissent près de 28% de leur PIB annuel dans les plans de relance, les pays émergents et à revenus intermédiaires ne peuvent mobiliser que l'équivalent de 6,5% de leur PIB et ce chiffre tombe à 1,8% pour les pays les moins avancés, soit plus de 15 fois moins. Et les conséquences sont immédiates. Si pour l'année en cours, les projections de croissance de l'économie mondiale sont de 5,6%, elles ne sont que de 3-4% pour le continent africain. C'est une tragédie africaine en marche. Tout cela freine bien évidemment la lutte contre la pandémie et risque de creuser davantage encore les inégalités. Des centaines de millions de personnes sont tombées dans la pauvreté, des pays sont au bord du défaut de paiement. Je renouvelle mon appel à soutenir les personnes et les pays les plus vulnérables, y compris si nécessaire, par un allègement de la dette.
Voilà l'appel d'Antonio Guterres ce jeudi à Bruxelles. Également concernant la pandémie de Covid-19, la vaccination qui marque le pas en France, ça veut dire qu'elle ralentit. les injections de première dose de vaccin sont en baisse, à peine plus de 200 000 cette semaine, contre plus de 400 000 par jour au début du mois. C'est une situation qui inquiète le gouvernement. C'est trop peu, on doit faire beaucoup mieux, a ainsi déclaré le Premier ministre Jean Castex en déplacement ce jeudi dans les Landes, département du sud-ouest de la France.
Émotion et indignation dans les territoires palestiniens.
Oui, avec la mort de Nizar Banat. C'est un militant palestinien qui osait parler haut et fort de la corruption de son gouvernement. Nizar Banat avait 43 ans. Il a été arrêté ce matin à l'aube par l'autorité palestinienne à Hébron. Peu de temps après cette interpellation, Nizar Banat a dû être transféré à l'hôpital où il est mort de ses blessures. Sa famille affirme qu'il a été roué de coups, c'est-à-dire frappé à plusieurs reprises, par plus de 20 membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Donc effectivement, l'émotion est vive. Des organisations de défense des droits humains et des factions palestiniennes appellent à une enquête indépendante sur les circonstances de sa mort. Et à Ramallah, les Palestiniens se sont rassemblés cet après-midi pour la mémoire de Nizar Banat et pour dénoncer les dérives autoritaires de leur gouvernement. Alice Froussard était sur place, reportage.
Sur la place Al-Manara, des centaines de Palestiniens sont rassemblés. Ils brandissent des portraits de Nizar Banat, le militant battu à mort, chante à sa mémoire et lance en chœur des slogans contre le gouvernement, évoquant leur incompétence, mais surtout le manque de liberté d'expression. Salah Amouri est un avocat franco-palestinien.
Aujourd'hui, on est là surtout pour protester contre l'assassinat de notre camarade Nizar Banat, la voix qui protestait clairement contre Abu Mazen. Et ça bombe. On est là aujourd'hui pour dire qu'il faut arrêter cette dictature politique en Cisjordanie. Et là, on a dépassé les limites de liberté d'expression. Là, on est devant un assassinat politique, clairement. Les gens, ils vont continuer leur protestation jusqu'à ce que l'autorité palestinienne change de sens sa politique contre ses opposants en Cisjordanie.
Sur place, il y a des jeunes, des personnes âgées, des familles. Le cortège est calme. Il se dirige vers la Moukata, le palais présidentiel, demandant le départ de Mahmoud Abbas. Arrivés à quelques mètres de sa résidence, les manifestants sont attendus par la police. Elle les bat violemment, lance des grenades, des gaz lacrymogènes sur la foule qui se réfugie dans les restaurants alentours. Il y a des blessés, certains sont en sang, mais tous réclament une chose, la fin de ce régime autoritaire et de meilleurs leaders, disent-ils. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Enfin, en football, l'Euro fait une pause de 2 jours.
Oui, pas de rencontre, ni aujourd'hui, ni demain samedi. Les matchs de poule, c'est-à-dire le premier tour de la compétition, est terminé. Alors avant le début des 8e de finale dimanche, c'est l'heure de faire un premier bilan. Et on le fait avec Cédric de Oliveira.
Il y a d'abord un constat. Tous les favoris ont franchi l'écueil du premier tour. L'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, auteurs d'un sans faute. Mais aussi l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et les Français, champions du monde en titre. Malgré l'élimination de la Turquie et de la Pologne de Robert Lewandowski, le tableau des 8e de finale est relevé. Et le Danemark en fait partie malgré la frayeur Christian Eriksen. Le numéro 10, victime d'un malaise cardiaque lors du match face à la Finlande, s'en est sorti miraculeusement, notamment grâce à l'aide de ses coéquipiers sur la pelouse. C'est la belle histoire de cet Euro. D'autres ont brillé, l'attaquant belge Romelu Lukaku, le tchèque Patrick Schick, auteur du plus beau but du tournoi sur un lob de 50 mètres, et bien sûr Cristiano Ronaldo. À 36 ans, l'inoxydable portugais est toujours au sommet, 5 buts pour lui déjà dans le tournoi, et 14 dans tous les championnats d'Europe qu'il a disputés, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et puis ce premier tour a suscité des remous aussi autour des terrains. L'UEFA a par exemple été critiquée pour ne pas avoir permis que le stade de Munich soit éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel des fiertés LGBT contre la Hongrie pour officiellement ne pas faire de politique.
Voilà, Cédric de Oliveira du service des sports de RFI. Le début des 8e de finale de l'Euro, c'est donc dimanche avec les 2 premières affiches. Les Pays-Bas face à la République tchèque et la Belgique contre le Portugal. Le match de l'équipe de France, ce sera
ce lundi,
effectivement, les 8e de finale. Les Bleus face à la Suisse. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. On vous rappelle le site internet pour retrouver notre script, le texte de ce journal en français facile. www.savoir.rfi.fr. Merci Mehdi.
Merci Romain.
Merci à Laurent Philippot ce soir à la réalisation de ce journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.